La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Nous sommes ce matin en Indonésie, où une réforme du code pénal soulève de nombreuses critiques.
Des critiques, des débats et surtout des manifestations d'étudiants ce mardi soir qui ont tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Une centaine de blessés et une centaine également d'arrestations. C'était à Jakarta, dans le quartier autour du Parlement indonésien, car c'est là, nous explique The Guardian, que risquait d'être votée mardi la fameuse réforme du code pénal. À moins qu'il ne s'agisse d'une loi morale qui ne dirait pas son nom. Ce que les milliers de jeunes indonésiens voulaient bloquer en descendant dans les rues de la capitale, c'est donc un projet de loi qui pénaliserait de facto les relations sexuelles hors mariage, le concubinage et l'homosexualité. La tentation d'imposer un nouvel ordre moral, donc en Indonésie, pas moins de 18 articles posent problème, en fait, en ce qu'ils représentent une menace aux libertés individuelles en Indonésie, selon Kate Lamb du Guardian, donc, qui précise que le code pénal indonésien était jusque-là assez progressiste et hérité en grande partie du droit néerlandais de l'époque coloniale, mais que les députés, dont la session parlementaire s'achève cette semaine, voulaient voter la réforme mardi avant de faire leur valise. Finalement, nous apprend CNN Indonesia, après les manifestations de mardi et les violences qui ont suivi, le président Joko Widodo a décidé de repousser le vote du Parlement. Pas de retirer le texte, mais bien d'en repousser l'adoption à la prochaine session parlementaire qui s'ouvrira au mois d'octobre, en espérant que d'ici là, eh bien, la pression de la rue sera un peu retombée. Or, il y a de quoi s'inquiéter à lire ce qu'en dit le quotidien local Tempo. Non seulement il y a ces lois morales, mais le projet de loi dissimule aussi un article très flou sur les lois existantes au niveau local, et l'on craint qu'il ne permette de légitimer, de renforcer des mesures discriminatoires tirées de la charia et qui pourraient gagner un poids législatif beaucoup plus important. On parle aussi de renforcer la loi contre le fait, je cite, de blasphémer le président, le vice-président ou l'État indonésien. Un crime qui est notoirement invoqué dans l'archipel pour réprimer les minorités religieuses et l'opposition politique. D'ailleurs, et j'en finirai ainsi avec la liste des récriminations, le nouveau code pénal prévoit aussi de rendre illégal tout lien avec des organisations marxistes-léninistes et de criminaliser la magie noire.
Mais si je vous ai bien suivi, Camille, le vote au Parlement a été reporté et l'histoire ne s'arrête pas là.
Non, car il y a de fortes chances, eh bien, que ce texte ne revienne à l'ordre du jour du nouveau Parlement dès la semaine prochaine. Et vu le poids croissant des partis islamiques conservateurs dans l'hémicycle, la réforme devrait passer sans problème. Les étudiants mobilisés mardi le savent, ils ne comptent pas donc retourner si facilement à leurs chères études. Le magazine Compass voit d'ailleurs dans les manifestations de ces derniers jours le signe d'un réveil de la jeunesse indonésienne, d'une conscientisation politique en train de renaître. Le mouvement étudiant sort de son sommeil anesthésié qu'il était, nous dit-on, comme tout le peuple indonésien d'ailleurs, par le poids des inégalités grandissantes et de la corruption généralisée. Avec la contestation de ce nouveau code pénal, il se jouerait donc quelque chose de l'ordre du retour de la société civile en Indonésie. On verra dans les prochaines semaines si c'est là un excès d'optimisme de la part de Compass ou bien si c'est un véritable phénomène social. En tout cas, il y a un autre aspect de cette affaire qui fait qu'elle n'est sans doute pas terminée. C'est le South China Morning Post qui soulève le fait que ces lois morales, notamment le fait d'interdire de loger sous le même toit des couples non mariés, cela risque de porter un coup très dur au tourisme en Indonésie. On pense notamment à Bali et à ses charters entiers de jeunes couples blancs venus ouvrir leur chakra, boire du jus de légumes et poster des photos sur Instagram. C'est pas moi qui fais cette description, c'est donc le South China Morning Post. Les touristes aussi seraient donc concernés par le nouveau code pénal. Déjà, l'Australie a anticipé la réforme dans ses recommandations aux voyageurs voulant se rendre dans l'archipel. Et il y a déjà eu des annulations de voyages. Vu le poids de l'industrie touristique dans l'économie indonésienne, c'est peut-être bien cet aspect-là de la question qui va faire plier le président Joko Widodo.
Un autre président dans la tourmente, c'est l'Ukrainien Volodymyr Zelensky.
Et oui, vous le savez, il joue les seconds rôles dans la nouvelle superproduction américaine, l'enquête en destitution lancée contre Donald Trump, accusé, je vous le disais hier, d'avoir fait pression sur Zelensky pour lui soutirer des informations compromettantes contre le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden. Volodymyr Zelensky, donc, se serait bien passé de ce rôle de figurant dans cette affaire qui tient la une dans le monde entier, d'autant plus que depuis hier, depuis que tous les journaux ont publié l'intégralité de la conversation en question entre les deux présidents, cette conversation se retrouve étalée au grand jour. L'Ukrainien, nous dit le journal Gazeta Paukrainski, ne voulait pas que le contenu du coup de fil soit étalé ainsi sur la place publique. Les discussions entre chefs d'État devraient rester confidentielles, c'est ce qu'il affirme dans un article du média citoyen Romatske. D'ailleurs, précise Ukrainska Pravda, la Maison Blanche ne lui a pas demandé sa permission avant de livrer la transcription à la presse, car Volodymyr Zelensky, dans cette fameuse conversation, a avec Trump dit des choses qu'il n'aurait pas voulu voir révélées, comme ses critiques par exemple sur l'inaction et le manque de courage d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron face à la Russie de Vladimir Poutine sur la guerre dans le Donbass. Le président ukrainien sait que ces mots ont été lus hier à Paris et à Berlin, qu'il va devoir à présent s'en expliquer auprès de ses partenaires. Il sait aussi que Poutine lui-même a dû apprécier le ton très déférent, voire faillot, que garde Zelensky pendant toute la conversation avec Donald Trump. Enfin, il y a cette phrase notée par Zerkalo Tijnia dans laquelle le président ukrainien rassure l'américain. Il lui explique que, comme son parti vient de remporter haut la main les élections législatives, il va pouvoir nommer un procureur général, je cite, qui lui obéira à 100% et qui relancera sans broncher l'enquête sur les Biden en Ukraine. En termes de séparation des pouvoirs, d'indépendance de la justice ukrainienne, ça pose franchement question. Comme dirait l'autre, un président ne devrait pas dire ça, même au téléphone avec Donald Trump.
Merci beaucoup Camille Magnat.